Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales dont on se demande encore si elles étaient vraiment nécessaires. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes intéressés à des expériences qui permettraient de mieux comprendre l'être humain, son fonctionnement, ses mécanismes, ses maladies. Elles étaient conduites dans un but soit médical, pour mieux soigner, soit dans un but pédagogique, afin de mieux comprendre de quoi nous sommes constitués. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une expérience sociale conduite par l'armée américaine. Vous vous doutez bien que celle-ci ne se classe pas dans la catégorie des expériences à but philanthropique. Non, là on veut bien sûr s'en servir pour le combat. Parce qu'avoir des armes de plus en plus puissantes, c'est bien, mais avoir des hommes machines de guerre, c'est mieux. Nous sommes au début des années 60 et l'ambiance très peu festive de la guerre froide rôde entre les États-Unis et ses alliés d'un côté et les forces de l'Union soviétique de l'autre. Chacun prépare son petit stock de missiles de son côté et c'est parti pour une guerre psychologique qui mènera entre autres à la crise des missiles de Cuba. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le côté psychologique de la guerre. Côté armement, les États-Unis n'ont pas vraiment de soucis à se faire. Ils savent innover en balançant des millions de dollars pour inventer et produire des machines à tuer. Non, comme dans beaucoup de domaines, le facteur faible, c'est l'humain. Comment être sûr que notre militaire ne va pas prendre ses jambes à son cou à la première menace de bombe nucléaire ? Comment s'assurer qu'il va se comporter en bon petit soldat et rester à son poste en obéissant aux ordres, même si la mort frappe à sa porte ? Laissez-moi vous parler de la United States Army Leadership Human Research.
One man crazy. Three very sane spectators.
Nous sommes en 1962 et l'armée américaine va demander à quatre chercheurs, Mitchell M. Berken, Hilton M. Bialek, Richard P. Kern et Khan Yagi, de faire des études sur le comportement des soldats sur un terrain de combat. Si un homme peut se comporter en héros pendant l'entraînement, le stress du combat peut totalement détériorer son comportement. Cette dégradation du comportement liée au stress est ce qui a poussé l'armée américaine à contacter l'université George Washington afin d'étudier les mécanismes de la peur et du stress en combat pour pouvoir adapter l'entraînement et le suivi des troupes. La méthode expérimentale nous paraît alors simple et logique. Il faut exposer les individus à un environnement hostile et mesurer leur réponse face à cet environnement. Afin de créer un environnement assez semblable aux conditions réelles, il faut pouvoir simuler les conditions de bruit, d'imprévisibilité, de fatigue, de prise de décision difficile, d'obscurité et de terrain difficile. Dans ce genre d'expérience, les chocs électriques sont souvent utilisés pour simuler la douleur et les blessures, sans pour autant mettre la vie des sujets en péril. Si dans un premier temps, les chercheurs ont tenté de créer des situations en laboratoire, comme par exemple les faire tomber d'un support instable et très en hauteur, les sujets ne répondaient pas vraiment de manière satisfaisante, puisqu'ils savaient qu'ils participaient à une expérience et qu'ils ne risquaient pas grand-chose en réalité. Ils n'avaient donc pas de réelle raison d'avoir vraiment peur. Nos chercheurs vont appeler ce phénomène « défense cognitive », à savoir leur plus grand ennemi dans leur recherche. En effet, à partir du moment où le cerveau sait qu'il n'est pas réellement en danger, il va bloquer la réponse peur et donc fausser les résultats de la recherche. Bon bah du coup, la solution est simple, non ? Il faut leur faire réellement peur. On peut peut-être les balancer au milieu d'une tempête et voir ce qu'il se passe. Non, les catastrophes naturelles sont trop imprévisibles et rares pour y conduire une expérience. On ne peut pas préparer l'expérience de manière adéquate et il y a tellement de variables à prendre en compte que les résultats seraient forcément biaisés. Des expériences de ce type ont déjà été conduites en laboratoire, mais seulement pour étudier les effets du stress sur le comportement, mais pas vraiment pour étudier la menace de la mort qui plane au-dessus de ta tête dans le comportement. L'échec qui n'a pas de conséquences vitales a moins d'impact que l'échec qui conduit à ta mort. Bah oui. Du coup, il faut arriver à construire un environnement contrôlé, mais assez effrayant pour passer au-delà de la défense cognitive. Il faut donc que le soldat ait vraiment peur pour sa vie, qu'il ne sache pas ce qu'on est en train de faire de lui et qu'il se chie dans le froc. Pour parler plus poliment, on va créer un stress cognitif. Ça veut dire qu'on va directement insuffler la peur dans le cervelet. Comme le Scarecrow dans Batman, sauf que là, on n'utilise pas de produits chimiques. Il faut alors construire une expérimentation, un scénario réaliste, dans lequel les sujets croient vraiment qu'ils vont passer l'arme à gauche. Et en même temps, ce n'est pas tout de les faire flipper, il faut pouvoir être en capacité de mesurer leur performance face à un environnement stressant et ne pas vraiment les tuer. Pour parvenir à ça, il est préféré d'introduire la menace en communiquant des informations plutôt qu'en utilisant des stimuli de peur primitives comme des jumpscares. Je vous donne un exemple de setup possible mais qui n'a pas été réalisé. On dit au sujet de conduire une ambulance vers un site isolé pour amener un homme blessé très gravement à l'hôpital. L'ambulance tombe en panne sur le chemin et le conducteur doit la réparer sans aide extérieure. Maintenant, le moteur de l'ambulance est simplement un outil, un accessoire déclencheur. Les éléments essentiels qui vont faire stresser le conducteur lui seront communiqués verbalement. La tâche spécifique est de réparer le moteur. Mais cette tâche est insignifiante en termes d'urgence, puisque je le rappelle, quelqu'un est en train de mourir à l'arrière de l'ambulance. Bref, plus que le décor, c'est la situation induite qui va créer l'état de stress du cobaye. Les avantages de ce type d'expérience sont multiples. Le sujet est une victime, une potentielle victime, ou fait partie de la menace plutôt que d'être un spectateur de la situation. Il est obligé d'agir. De plus, les situations créées sont planifiables, prévisibles et contrôlables. Il n'y a pas un nombre de personnes limite qui peuvent participer à une telle expérience, c'est-à-dire qu'on peut la répéter à l'infini, contrairement à l'exemple de la tempête précédemment. L'expérience ne peut pas être altérée par la présence du chercheur, et des mesures comportementales peuvent être prises objectivement. Maintenant, il faut trouver ce qui fait vraiment peur à des militaires entraînés et créer des situations qui n'entraînent pas un stress physique, comme la fatigue, la douleur, la faim, etc., pour ne pas fausser les résultats. Nos quatre chercheurs vont alors s'attaquer à de la littérature militaire. Oui, ça existe. Ils vont aussi devoir décider de comment mesurer leur quantité de peur, leur réponse comportementale face à celle-ci et leur réponse physiologique. Pour la première, Kerl et Bialek vont créer une échelle composée de 15 mots décrivant leur état de peur. Pour la réponse comportementale, ils vont comparer les actes du groupe test au groupe de contrôle. Et pour la réponse physiologique, ils vont mesurer l'hyperactivité des sujets et leur taux d'adrénaline. Premier test, le crash aérien. Les sujets étaient simplement des passagers d'un avion à l'apparence un peu douteuse qui va devoir se crasher ou faire un atterrissage d'urgence pendant que les cobayes vont devoir remplir deux formulaires d'assurance parce que c'est les protocoles, posez pas de questions, on est en train de piquer droit vers le sol. Le premier papier, appelé le Emergency Data Form, était une description et une liste d'instructions sur quelles dispositions prendre face à mes possessions en cas de mort imminente. Bref, une sorte de testament. C'était vraiment un exemple de papier administratif illisible et délibérément compliqué, ce que j'appellerais un papier administratif à la française. Il y avait des instructions très compliquées réparties dans 23 catégories. Le second papier, intitulé « Official Data on Emergency Instructions », était un test avec 12 questions à choix multiples, mesurant ce que le sujet a retenu des instructions d'urgence qui lui ont été données avant le vol. Ces deux formulaires ont aussi été donnés à un groupe de contrôle qui les a remplis dans des conditions beaucoup plus détendues. Un avion militaire pouvant contenir 12 passagers, plus l'équipage, fut utilisé. Il fut équipé d'un interphone et d'une table de lecture pour chaque passager. 66 hommes âgés entre 18 et 24 ans, dans leurs 8 premières semaines d'entraînement militaire, qui ont démontré des capacités ordinaires de lecture, ont été sélectionnés au hasard et assignés de manière aléatoire à l'un des trois groupes. Un groupe expérimental, un groupe de contrôle qui a volé et un groupe de contrôle qui est resté au sol. L'expérience a été conduite sur 2 jours successifs. Pour le groupe test, les 10 sujets ont été emmenés sur la base aérienne, supposément pour participer à une étude sur les effets de l'altitude sur les performances psychomotrices. Un chercheur est monté avec eux pour soi-disant conduire cette étude, et un second est monté incognito dans le rôle d'un steward faisant partie des sujets testés. Ils furent informés qu'un test d'urine sera conduit à l'issue du vol pour corréler leurs tests psychologiques pendant le vol. Pour cela, on leur demanda de bien se remplir la vessie une demi-heure avant le décollage. Oh, je suis sûre que vous voyez où ça mène. Avant l'embarquement, un représentant de la base aérienne donna à chaque passager une pochette contenant les instructions en cas d'urgence et leur demanda de les étudier pendant 10 minutes. En tant que procédure standard à chaque vol militaire, chaque passager reçut un gilet de sauvetage et un parachute. On construit une ambiance, quoi. Une fois décollé, à une altitude de 5000 pieds, on demande aux passagers de réaliser une tâche dont on se contrefout et on leur dit qu'on va encore attendre un peu que l'avion prenne encore plus d'altitude. Là, l'avion commence à subir des turbulences. Dois-je préciser que le pilote est très bon et qu'il doit bien rire sous sa moustache? Est-ce qu'il avait vraiment une moustache? Imaginons-le avec une moustache. C'est le moment pour un des sujets de s'apercevoir qu'une des hélices a arrêté de tourner. Il entend aussi à l'intercom que plusieurs autres défauts techniques accablent l'avion. Ils sont informés, toujours par l'intercom, que c'est la merde. Une simulation de communication entre le pilote et la tour de contrôle est diffusée, toujours via l'intercom. L'avion fait demi-tour et repasse au-dessus de l'aéroport. Là, les passagers peuvent voir des ambulances et des camions de pompiers les attendre au sol. Et comme ils sont entraînés, ils savent que ce dispositif est là en cas de crash imminent. Après plusieurs minutes de suspense, le pilote annonce aux passagers de se préparer à se crasher dans l'océan car le train d'atterrissage ne veut pas sortir. Quand ça veut pas, ça veut pas. Cette annonce était un signal préarrangé pour que le faux steward distribue les questionnaires aux passagers et aux complices de l'expérience pour maintenir la crédibilité de l'opération. Le premier document leur sembla logique à remplir vu les circonstances de mort imminente. Pour les seconds, on leur dit qu'ils serviraient à prouver aux assurances que les précautions d'urgence avaient bien été suivies. On leur dit ensuite que les documents seront placés dans une boîte waterproof et largués avant le crash. Pendant le remplissage des documents, les fausses communications avec la tour de contrôle furent coupées afin que les sujets ne reçoivent pas de stimuli externes. Ensuite, l'avion se posa délicatement sur la piste d'atterrissage sous l'incrédulité de ses passagers qui furent emmenés dans une salle de débriefing où on leur demanda leur niveau de peur selon l'échelle dont on a parlé plus tôt et bien entendu, on leur révéla la vraie nature de l'expérience. Et peut-être qu'on leur donna un caleçon propre aussi. Avant de tirer des conclusions sur l'expérience, 5 sujets furent éliminés car ils avaient compris la supercherie. La plupart car ils étaient très familiers des procédures de vol et ont senti que quelque chose clochait. Et un autre parce qu'un précédent cobaye avait laissé un petit mot explicatif sur un sac à vomi. Et un autre parce qu'il a surpris une conversation entre le pilote et l'ingénieur qui planifiait le faux incident. Bien joué les gars. Qu'en est-il résulté? Une petite frayeur, certes, mais qui s'est atténuée pendant qu'ils remplissaient les formulaires puisque leur cerveau était concentré sur autre chose, faisant diversion sur le vrai événement fatal. En revanche, au niveau du remplissage des documents, il y a très peu de différence entre les sujets tests et les groupes de contrôle. Les cobayes ont donc su garder assez de sang-froid pour refouler leur phobie administrative. Néanmoins, c'est juste une façade, puisque les tests d'urine ont bien indiqué un fort taux d'adrénaline. Bon, ça c'était le test du test, plus pour voir la faisabilité de l'expérience que pour en tirer de vraies données. Et d'ailleurs, le fait que plusieurs des sujets ont flairé la supercherie a donné l'ambition aux 4 chercheurs de refaire une autre expérience. On l'appellera l'exercice militaire au milieu du désert, parce que ça rime et tout. Cette expérience s'est déclinée en 3 exercices différents, sur 3 groupes de cobayes. Mais leur point commun est le suivant. Les sujets sont conduits à croire qu'ils font face à un danger immédiat, assez grave pour qu'ils en décèdent dans les minutes qui suivent, ou du moins qu'ils soient très gravement blessés. Et que la tâche qui va leur être demandée va avoir une incidence capitale sur le fait qu'ils s'en sortent ou pas. La différence dans les 3 expériences va être la cause de l'urgence. La première sera un accident nucléaire dans les environs, la deuxième un feu de forêt encerclant les militaires, et la troisième des obus lancés accidentellement dans leur direction. La première expérience avec la menace nucléaire est celle qui aura le moins de support visuel. La menace est invisible. Le sujet est stationné seul dans un avant-poste isolé et il lui est demandé de faire un rapport au commandement par radio rapportant la présence ou non d'avions passant au-dessus de sa tête. Il va ensuite entendre par la radio qu'un accident avec des matériaux radioactifs a eu lieu, résultant en des retombées radioactives dangereuses dans son périmètre. Un secours immédiat est possible pour lui, mais seulement s'il peut communiquer sa position par radio. Et pas de bol, c'est le moment où sa radio décide de tomber en panne. Oh, c'est ballot, hein ! À sa connaissance, la panne a un lien avec la radioactivité. On lui dit que toute manœuvre est annulée et que sa seule tâche est de réparer la radio pour qu'on puisse venir le récupérer. À sa disposition, il a aussi un compteur GGR truqué qui lui indique un fort taux de radiation. Le plan pour la seconde situation est le même, sauf qu'on lui indique un feu de forêt accidentel qui encercle l'avant-poste. En tant que support visuel, des fumigènes sont utilisés environ 400 mètres plus loin. C'est plus percutant que le compteur GGR dans la première situation. Encore une fois, sa radio pétée empêche qu'on vienne le secourir. Dans la troisième situation, une série d'explosions simule un barrage de mortiers pétant à proximité du sujet. Comme vous pouvez vous en douter, c'est ce qu'il y a de plus percutant et visuel parmi les trois menaces. Forcément quand on fait appel à Michael Bay, hein. Au groupe de contrôle, on demande juste de réparer la radio pour demander de l'eau et de la nourriture, mais sans menace externe. Pour sélectionner les sujets, on choisit de nouvelles recrues qui n'ont pas encore commencé l'entraînement, mais qui remplissent les critères physiques et psychiques de l'armée. Les sujets furent transportés en bus à environ 130 km de leur base, un désert montagneux vaste, sous-développé, sec et sablonneux. Avant de monter dans le bus, les hommes furent prévenus qu'ils allaient être utilisés afin de tester de nouveaux concepts de guerre atomique et ils seraient contactés afin de réaliser des tâches en solitaire plutôt qu'en groupe. Les hommes furent ensuite divisés en deux groupes, le groupe test et le groupe de contrôle. On les briefa ensuite sur le soi-disant but de l'expérience. L'armée cherche de nouvelles tactiques de guerre atomique et pense envoyer des troupes non formées pour effectuer des tâches simples de reconnaissance. Des sons d'explosion pouvaient être entendus au loin pour renforcer l'illusion. On les informa des risques, dont le risque de feu de forêt, non seulement pour renforcer la narration de l'expérience, mais aussi parce que ça pouvait vraiment arriver pour le coup. Les sujets furent ensuite isolés, seulement en présence des quelques représentants du poste de commandement, les quartiers fictionnels. Pendant les premiers temps, on leur confia des tâches banales de routine, comme la distribution des rations ou l'inspection des sanitaires. Chaque jour, un chauffeur venait chercher le sujet pour l'amener à un avant-poste où il serait complètement isolé. Il leur était demandé de surveiller le trafic aérien et de rapporter par radio au commandement à chaque fois qu'il apercevait un avion. Au bout d'une heure, il recevait le message comme quoi l'expérience était terminée, on le ramenait au bivouac et on lui faisait passer quelques tests avant de recommencer le lendemain. Le jour J, le chercheur lance un enregistrement via la radio du sujet, lui faisant croire que beaucoup d'autres avant-postes comme lui sont en cours et que chacun peut communiquer directement avec le commandement, mais ils ne peuvent pas communiquer entre eux. Environ 25 minutes après le départ du chauffeur, le sujet reçoit le message que sa radio semble ne pas fonctionner correctement. Nous vous entendons très mal, le signal faiblit. 20 minutes plus tard, c'est showtime! On informe le sujet du problème, soit les retombées radioactives, soit le feu, soit l'artillerie, et on commence aussi à déployer les effets visuels et sonores. On informe alors les sujets de la nécessité d'évacuer immédiatement, et dans le même temps, ils se rendent compte que leur radio ne fonctionne pas. Ils entendent, mais ne peuvent pas émettre. Ils sont obligés de réparer leur radio seuls afin qu'un hélicoptère puisse les retrouver, sinon c'est la mort assurée. Pendant que le sujet panique à essayer de réparer sa radio, les effets visuels et sonores sont toujours déployés, c'est la panique dans les messages diffusés par la radio, et un hélicoptère survole la zone sans sembler voir le sujet. Au bout de 70 minutes d'expérience en tout, un chauffeur vient chercher le pauvre bougre et le ramener au bivouac. On débriefe ensuite avec lui et on lui fait passer quelques tests physiques, psychologiques et physiologiques. Pendant l'expérience, on a pu mesurer plusieurs choses. Le temps que met le sujet à commencer les réparations en suivant les instructions notées sur une plaque à côté de la radio, le temps que le sujet mette à suivre un diagramme lui indiquant de mettre le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge, et finalement, à chaque fois, on chronomètre le sujet suivant diverses instructions. Toutes ces mesures furent rassemblées en un score pour permettre de le comparer. Qu'est-ce qu'on a alors appris ? Eh bien que si vous voulez effrayer quelqu'un, rien ne vaut une bonne grosse explosion qui fait du boucan. En effet, plus la menace est visuelle et sonore, plus elle est effrayante et fait perdre ses moyens au sujet. A l'inverse, on s'aperçoit que la menace radioactive, invisible, est perçue comme moins oppressante. Et c'est aussi dû au fait que certains des sujets avaient loupé quelques cours à l'école et qu'ils n'étaient pas vraiment au courant des effets de la radioactivité sur le corps humain. Sans surprise, les chercheurs se sont aussi aperçus que plus un soldat était entraîné, plus il était à même de garder son sang-froid dans de telles situations. En parlant avec les sujets, ils s'aperçoivent que ce qui leur fait garder leur concentration, c'est le fait de pouvoir faire abstraction de la menace qui les entoure et de se concentrer uniquement sur la tâche qui les incombe, ne prenant plus en compte le fait qu'ils puissent mourir ou être sévèrement blessés. C'est pour cela qu'en faisant les tests sur des sujets qui n'avaient pas encore commencé leur entraînement militaire, ils ont pu avoir des réactions différentes. En effet, pour le jeune Kidam, sa priorité ne sera pas forcément de rester en position et d'obéir aux ordres. Aussi, certains sujets, dès l'annonce de la menace, ont pris leurs jambes à leur cou et ont déserté. Alors est-ce que tout ceci était bien nécessaire ? Bon, déjà, les expériences ont lieu sur des militaires qui ont un peu signé pour ça. Ensuite, ces expériences ont pu permettre d'ajuster les entraînements militaires pour mieux préparer les soldats à réagir face à l'imprévu et aux situations très graves. Alors forcément, ce n'est pas dans un but jovial, on parle de guerre, mais cela peut aussi être transposé à des fins d'aide humanitaire ou de secourisme. Lors d'une catastrophe naturelle, il est peut-être bon d'avoir des hommes formés à garder leur sang-froid en toutes circonstances afin de guider une population paniquée qui court et crie dans tous les sens avec son rouleau de PQ sous le bras. Comme à chaque fois, je vous laisse vous faire votre propre opinion. C'est la fin de cet épisode de Ni éthique ni responsable, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à me laisser des étoiles et des commentaires. Si vous voulez garder le lien, vous pouvez me suivre sur Twitter, @niéthiqueniresp. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Ni éthique ni responsable.